Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors, bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. C'est au collège que Swazik flash sur celui qui deviendra l'homme de sa vie, un homme qui souhaite s'engager dans la marine. Ce monde de l'armée n'est pas inconnu pour Swazik et c'est tout naturellement qu'ils vont mettre en place des rituels pour gérer les absences régulières. Au fil du temps vient la première grossesse, une seconde, une troisième et une quatrième, et Swazik est plongé dans sa maternité pendant que son mari est quelque part dans l'océan. Des au revoir sur les quais du port, une communication impossible pendant des mois et des retrouvailles toujours précieuses. Dans cet épisode, Swazik nous raconte ses différentes grossesses avec et sans son mari à ses côtés. Elle nous parle de l'importance de préserver son couple, véritable pilier pour la famille, des ajustements qu'il faut faire quand le papa est vu en héros par les enfants et de la place qu'il doit reprendre dans l'éducation à son retour à la maison. Une organisation un peu à part qui a toujours roulé pour cette famille. Bonne écoute. Bonjour Swazik.
Bonjour Shane.
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
Merci d'avoir invité, je suis ravie.
Alors, tu es la maman de 4 enfants, 3 garçons et une fille. Mmh. Ils ont quel âge ?
Alors, l'aîné a 14 ans, le second qui est un garçon aussi a 12 ans. Ensuite, on a le troisième qui va avoir 10 ans et la petite dernière, la fille qui a 8 ans.
Et alors, bah, on va repartir sur ton histoire, ta rencontre notamment avec le papa de ces 4 enfants. Mmh. Raconte-nous un petit peu.
Alors, on s'est connus... très jeune, on était en quatrième. Donc moi en fait, j'ai eu de suite au premier regard, j'ai su que ce serait lui. Ça peut paraître complètement bateau, mais voilà.
Coup de foudre au collège. Quoi.
Mais ouais, et c'était pendant une réunion. On n'était pas au collège ensemble, mais dans un autre cadre. Mmh. Et on était assis à la même table, dans le même groupe, et il se souvient très bien lui de cette jeune fille qui le dévisageait. Il comprenait pas pourquoi. Et vraiment, je n'arrivais pas. En plus, il avait les yeux verrons, donc c'était hyper intrigant. Mmh. Donc vraiment gros coup de cœur. Et puis on n'est pas sortis ensemble tout de suite. On est sortis ensemble quand on avait 17 ans.
D'accord.
Donc vraiment des super souvenirs. Et puis ça a duré 6 mois. Je crois que je lui ai mis un peu trop la pression à l'époque. Je voulais quelque chose de sérieux, voilà, enfin que ça soit bien fait, bien ficelé, tout ça. Lui s'est dit oulala, c'est un peu too much. Ouais. Donc il m'a dit écoute, je t'aime beaucoup, mais ça va pas être possible. D'accord. Donc on s'est séparés. Et puis en fait, on est toujours restés en contact, en se disant un peu qu'on était meilleurs amis, en fait. Voilà, okay. Ça se joue un peu comme ça. Donc, on s'écrivait, on se voyait. Et puis, on a fait nos histoires chacun de nos côtés. Mm-hmm. Nos histoires, même nos études. On a été les villes, pas dans les mêmes villes. Voilà, on a eu nos histoires de cœur chacun de nos côtés, tout en gardant toujours un lien. Et puis, en fait, il y a un moment où il y a eu une évidence. Et voilà, on s'est revus et en fait, moi, j'ai toujours su que c'était lui.
Ouais.
Je lui ai toujours fait... Enfin, il le savait très bien. Lui a toujours fait en sorte quand même de me garder près de lui.
Mmh.
Et donc, voilà, le jour où il a été prêt, on dit souvent que ça met plus de temps pour les hommes. Moi, ça s'est vérifié. Le jour où il a été prêt, voilà, déclaration. Et puis, c'était parti, en fait. Après, ça a été assez rapide.
Et t'avais quel âge, là ?
On avait 25 ans. Ça va faire 15, on vient de fêter nos 15 ans de mariage, là.
D'accord. Mmh. Donc il a fallu 12 ans, en fait, pour que vous mettiez...
Il a fallu... oui, on s'est rencontrés à 14, on sortit ensemble à 17. Donc, ouais, il a fallu 8 ans, ouais.
Ouais.
Ouais, 8 ans, et après... voilà. Mais du coup, ça a fait une histoire assez... assez forte parce que on s'est connus tout ce temps-là, mais voilà, on connaissait un peu nos vies, mais sans rentrer dans les détails. Donc voilà, c'est vraiment une histoire qu'on porte.
Ouais.
Ouais, ouais, vraiment. Mm.
Et alors, à quel moment est arrivé le sujet de la maternité ?
Eh bien, alors comment c'est quand même, on n'était pas tout jeune quand on s'est mariés, c'est arrivé assez vite. On a vécu la première année de notre mariage sur Paris, et puis en fait, je suis tombée enceinte dans cette première année, voilà, assez facilement. Donc voilà.
C'était prévu.
Ouais, ouais, c'était prévu. On s'était dit que, qu'on voulait un enfant, donc voilà, on s'était pas mis la pression, mais par chance, c'est arrivé assez vite. Donc ouais.
Et donc la particularité de ton mari, c'est que il est dans la marine, donc avec des absences répétées, j'imagine.
Et ouais, exactement. C'est vrai que c'était un peu le la particularité de notre couple au départ. Et voilà, je le savais puisque, comme je disais tout à l'heure, on s'est jamais perdu de vue. Mmh. Donc je savais ses études, j'ai toujours su que voilà, c'est quelque chose qu'il voulait faire, que c'était un amoureux de la mer et voilà, qui voulait s'engager dans la marine. Donc moi, en fait, ça faisait partie de lui, pour moi. Donc voilà, ça n'a jamais posé de problème. J'ai un grand frère et j'avais un beau frère aussi dans la marine. Donc je connaissais, je savais ce que c'était.
Baigné.
Ouais, exactement. Donc c'est, pour moi, c'était pas un monde inconnu, pas du tout. C'est un monde que j'aimais bien en plus. Hein. Ouais. Et puis j'étais assez fan de l'uniforme. Et puis même tout ce côté mission, départ, les amoureux qui se quittent sur le quai du port et tout ça, ça me faisait bien triper. Donc voilà, ça a posé aucun. Enfin, ouais. Ça m'a jamais stoppé en tout cas. Et puis du coup on s'est positionné dès le départ avec ça dans notre histoire. Donc on savait les dangers d'une telle situation, des départs fréquents, des missions. En plus là, il y avait une particularité, c'est que pendant ces missions, on ne pouvait pas du tout communiquer. Donc il fallait vraiment bien travailler le sujet en amont, préparer ça, pouvoir justement communiquer sans se parler, sans se voir, sans rien. Il fallait quand même qu'on puisse garder un lien. Donc on avait bien travaillé le sujet. Et ce qui fait que...
Parce que c'est des missions de combien de temps ?
Alors, ils partaient entre 2 et 3 mois.
Donc, d'accord, oui. 2-3 mois sans communiquer.
Ouais, voilà. Ça peut paraître, en fait, assez court pour... je sais pas s'il y a d'autres femmes de marins qui écoutent. Et parfois, ils peuvent partir 4 à 6 mois. Et pour le coup, c'est très long. Mais c'est vrai que 2-3 mois, une mission de 2-3 mois sans aucun contact, je pense que ça vaut largement une mission de 6-8 mois. Hein, parce que c'est vraiment très particulier.
Et oui.
Ouais, il y a un... Il y a vraiment un vide, en fait, qui se crée. Il y a même, au bout d'un mois et demi, sans la présence de l'autre, sans entendre sa voix et sans avoir de nouvelles du tout, il y a une sensation de presque de mort, en fait. On a l'impression que l'autre est mort. Donc voilà, on vit un peu avec ça. C'est vraiment particulier. Hein. Il faut lutter, en fait, pour se dire, mais non, c'est pas le cas, il est bien là, mais... donc c'est pour ça qu'on avait mis des petits systèmes qui nous aidaient à enregistrer les petites vidéos, on savait qu'on écoutait des chansons en même temps, enfin voilà, on essayait de faire en sorte d'être connectés malgré ce vide, pour se rendre vraiment présents l'un à l'autre.
Et alors, pendant cette première grossesse, il était déjà, il partait en mission à ce moment-là ou pas du tout ?
Non, pas encore. Il était encore en formation sur Paris. Donc, toute la première grossesse et puis pour l'accouchement, il était présent.
D'accord. Et alors, comment elle s'est passée, cette première grossesse ?
Bah, franchement, assez facile, hein, les 3 premiers mois avec les nausées un peu tradies. Et après, super. Enfin, je me sentais vraiment bien, épanouie. Ça a été une belle grossesse. J'avais un gynéco vraiment au top. Donc, du coup, j'avais tout l'environnement a fait que ça s'est super bien passé.
Est-ce que vous aviez discuté justement de l'après, une fois que le bébé serait là, l'émission qui allait commencer ?
Tu vois, tu me poses la question. Non, je crois qu'on n'a jamais trop... En fait, on s'est laissé porter.
Oui.
On s'est laissé porter et on n'a jamais trop creusé le sujet. La première mission est arrivée quand... Marin avait il avait déjà 9 mois.
D'accord.
Donc
oui, t'avais le temps de prendre tes marques déjà toi en tant que maman.
Oui, j'étais à l'aise avec mon bébé, donc quand il a fait sa première mission, je me sentais Ouais, je me sentais à l'aise, suffisamment sûre de moi, en fait, pour assumer. Et puis, il y a quand même quelque chose qui se passe quand ils partent. C'est que dans sa tête, on se met vraiment en mode Wonder Mom, en fait. Mmh. Et on se dit, OK, maintenant, moi, je suis toute seule pour mon enfant, pour mes enfants. Il faut que quand ils rentrent, je lui rende en bonne santé. Enfin, c'est vraiment des choses auxquelles on pense, hein, parce qu'on devient responsable tout seul de ses enfants. Mmh. Donc, il y a vraiment quelque chose, et pour en avoir parlé avec d'autres nanas qui vivent la même chose, voilà, on shift sur un autre mode et voilà, on fait tout pour que tout se passe bien, soit dans les rails et que voilà, on puisse les 2-3 mois après dire bah, tout s'est bien passé, super, j'ai géré quoi.
Grosse pression quand même.
Ben, il faut, grosse pression, et du coup, pour pas trop se la mettre, il faut avoir confiance en soi. Mm. Et faites confiance quelque part en la vie, avoir tu vois, cette force intérieure de se dire, de toute façon, tout se passera bien. Donc, j'y vais avec ça, ça évite de trop se mettre la pression, quand même. Mais voilà, il y a vraiment ce côté, je vais assurer, j'y vais, ça va le faire. Et puis, en fait... plus il y a de mission, évidemment on se sert de ce qui s'est passé sur celle d'avant, donc on est plus sûr de soi. Les erreurs qu'on a faites, on s'en sert, on les refait pas, donc on apprend en fait au fur et à mesure des missions.
Et t'avais de l'aide toi à ce moment là de l'entourage qui pouvait
Les grands-parents ont toujours été présents, moi j'ai d'une famille nombreuse, donc pareil, les frères et sœurs, je suis la quatrième, donc en plus j'avais trois aînés qui avaient déjà des enfants, donc dès que, avec en plus une sœur et une belle-sœur qui connaissaient la même chose, donc il y avait une super entraide. Vraiment, j'ai jamais manqué de je travaillais, donc voilà, quand il fallait me dépanner pour garder Marin, ça posait pas de problème. Donc j'étais hyper bien entourée, ce qui aide énormément, bien évidemment.
Et le papa, du coup, lui, comment il gérait l'absence avec son premier bébé? Comme il l'a vécu, lui.
Ouais, je crois que c'est pareil, en fait. Enfin, je crois pas, je suis sûre. Et à partir du moment où ils montent sur le bateau, c'est pareil, ils se mettent en mode, je suis dans le boulot, je suis marin, je vais faire le job, j'ai une mission. Ils se mettent dans cette position. Parce que s'ils commencent à trop penser à ça, à ce qu'ils laissent derrière, à ce qui peut se passer, ça va pas, en fait. Ouais. Ils arrivent pas au bout de la... Ça se passe pas bien. Donc, eux, c'est pareil. Ils changent de cadre. Et toujours avec... Et on échangeait pas mal là-dessus, ce côté confiance en la vie, et ça va bien se passer. En fait, il faut vraiment partir avec ses good vibes intérieures pour être serein. Mais qu'il évitait de penser à ce qu'il laissait derrière lui.
Et le retour, du coup, auprès de Marin, comment ça s'est passé pour eux deux? Est-ce qu'il a reconnu son papa tout de suite?
Il était petit quand même, donc pas tout de suite, mais finalement, il y a plein de choses qui se raccordent assez vite une fois qu'ils entendent la voix. Ce qu'il faut faire surtout, c'est la maman, accepter de laisser toute une part qu'on vivait avec son enfant, seul à seul, laisser cette place au papa, en fait, pour qu'il puisse bien la reprendre. Et ça, c'est important parce qu'évidemment, l'enfant, il va avoir tendance à se tourner vers nous puisqu'il nous a connus.
Oui, vous avez des habitudes à deux.
Bien sûr. Donc, il faut vraiment accepter. Et c'est pas naturel, en fait. Mais donc, c'est pas naturel. Donc, il faut se le dire, il faut se le répéter. Il faut parfois constater, dire non, là, ça l'a pas fait. Enfin, j'aurais dû lui laisser la place. Mais ça s'apprend encore une fois. Hein. Mais c'est important pour que lui, justement, le papa. Quand il rentre, il y a toujours 2-3 jours de flottement, où pour le coup, donc ça, enfin, et ça c'est plus vu après quand ils ont grandi, mais où il arrive et c'est le super papa qui rentre, donc il est trop cool, super, la maman c'est celle qui nous a un peu enquiquiné pendant 2-3 mois, donc mauvais rôle, le père super héros, super rôle, donc on laisse 2-3 jours, et après on dit, allez mon petit coco, maintenant les punitions, s'il faut hausser le ton, je te laisse faire, moi au contraire je vais reprendre le rôle de la maman douce, câline et la protection, et puis toi tu vas venir faire un peu plus l'autorité, mais c'est, encore une fois... Ça se travaille parce que c'est un rôle sympa, hein, le papa, en mode héros et tout cool et tout ça. Ah ben c'est top, hein. C'est très confort. Mais voilà, et on connaît des couples dans lesquels c'est, installé comme ça. Et voilà, la maman est restée un peu le côté autoritaire et qui mène la maison, et puis le papa. Mais voilà, moi j'avais dit, je voulais pas de ça. Non, je voulais pas ça de chez moi. Donc voilà, et lui l'a tout à fait d'ailleurs, enfin, c'était accepté par nous deux, hein. Mais voilà, il fallait parfois remettre un peu les choses au clair là-dessus. Il fallait en reparler.
Oui. Donc, beaucoup de communication en fait au sein du couple finalement pour gérer tout ça.
Énormément. Et c'est vraiment ce qui a fait qu'on a très bien vécu et qu'on vit encore très bien ce rythme de vie, c'est que on échange énormément sur le sujet. On essaye de rien laisser s'installer, voilà, qui va après être source de conflits ou de problèmes et qui sera plus difficile à résoudre en fait.
Et alors, à quel moment est venue l'envie de faire un deuxième?
Eh bien, surprise, Madame Nature, hop, voilà. Et en fait, là, il y avait c'est assez drôle parce que il est parti en mer, et puis j'ai découvert pendant son absence que j'étais enceinte.
Ah oui.
Je m'y attendais pas.
Ouais.
Je m'y attendais pas du tout.
Donc là, impossible de lui dire.
Non. Impossible. Et puis, en plus, vraiment, pour dire à quel point j'étais à milieu de ça, j'avais pas mes règles et je me suis dit, mince, j'ai un cancer de l'utérus, quoi. Enfin, c'est idiot. La première chose à laquelle tu penses, c'est de te dire, bah, je suis enceinte. Non, non. Mince, il y a un truc qui va pas et tout. Donc, j'appelle mon gynéco qui me dit, peut-être que vous allez aller faire une prise de sang avant qu'on se voit. Enfin, je sais pas, mais c'est... je dis, vous croyez? Non, je vous crois vraiment pas du tout. Mais je vais le faire quand même. Donc, je vais le faire. Non, mais évidemment, j'étais enceinte. Donc...
c'est drôle d'avoir pensé à ça.
Mais oui, incroyable. Donc, du coup, j'ai pas pu lui dire.
Et donc en fait, il venait de partir ou ça faisait déjà
Ça faisait 3 semaines. 3 semaines, un mois.
D'accord.
Ouais, c'est vraiment un bébé du départ. Et puis, donc je suis allée au retour. C'était pas prévu normalement, puisque j'avais Marin qui était petit, hein, qui avait 9 mois. Donc, je l'ai laissé chez ses grands-parents. Et puis, voilà, j'ai pris le train, je suis allée sur le quai. Et donc, il s'attend déjà pas à me voir. Donc, première surprise. Et puis, je lui ai dit, écoute, je suis pas venue toute seule. Donc, il s'est dit, bah, elle est venue avec Marin, sympa. J'ai dit, non, c'est pas lui. Et donc, voilà, là, on s'est regardé. Il a dit, ok, sympa. Et donc voilà, c'est la façon dont je lui ai annoncé que j'étais enceinte. Donc ça reste un super souvenir, quoi.
Vraiment. Mais comment t'as tenu, toi, pendant toutes ces semaines à garder ce secret? Est-ce que t'en as parlé autour de toi avant ou
J'en ai parlé, ouais. Ça, j'ai lâché l'info sans problème. Et puis on s'écrivait, en fait. Donc on s'écrivait sans pouvoir se donner les lettres, mais voilà, une façon. On s'écrit chacun un carnet.
D'accord.
Et voilà, et c'est une façon de. Bah, t'as un peu l'impression de lui dire, voilà, quand le soir t'es là à écrire, même s'il le lira pas tout de suite, c'est pas grave, c'est déjà une façon de lui dire.
Ah d'accord, donc vous avez ce cérémonial d'écrire dans des carnets et de vous les échanger en fait.
Exactement.
Vous vous retrouvez.
Voilà, on se les échange quand on se retrouve, mais par contre, on ne les lit pas, parce qu'en fait, on a plein de soirées où on se raconte tout ce qui s'est passé, et quand le départ en mission suivante, on a les carnets qu'on s'est échangés, et du coup on s'écrit à peu près tous les deux jours, on lit tous les deux jours ce que l'autre avait écrit, ce qui fait que là encore ça le rend présent, alors sur quelque chose qu'il a vécu avant, mais c'est pas grave. Et la journée, c'est bête, mais ça te tient, tu te dis cool, ce soir c'est le soir où je peux m'installer tranquille et lire ce qu'il m'a écrit. Donc, et puis du coup, on a toutes ces missions racontées, nos vies de mission racontées dans des carnets, donc ça sera top pour les enfants plus tard.
Ouais, carrément. Bah, oui. C'est canon. Et toi, tu faisais quoi comme job à ce moment-là?
J'étais responsable juridique. D'accord. En clinique, donc je faisais, du coup j'étais en télétravail, ça a été ma chance, c'est pour ça que j'ai réussi à pouvoir avoir les enfants, continuer de travailler, parce que j'avais pas besoin je me déplaçais du coup une fois par mois, j'allais sur place. Donc bon, voilà, je m'arrangeais pour gérer. Au boulot, ils connaissaient la situation où je travaillais, donc voilà, ils acceptaient, ils étaient assez arrangeants. D'accord. Donc c'était bien.
Ok. Et donc là, te voilà maman de 2. Comment s'organisent tes journées? Parce qu'en plus, ils sont très rapprochés en âge.
Ouais. Ils étaient rapprochés, mais j'avais la chance, nous on habitait vraiment en Bretagne, petit bourg et tout, donc la vie était simple. Petite crèche trop sympa, hyper flexible, voilà, l'habitude aussi avec les femmes comme ça dont les hommes partaient, donc vraiment au top. Et puis là, comme je disais, je faisais du télétravail, donc ce qui fait que c'était Enfin, c'était assez simple pour moi. Enfin, je dis ça maintenant. Peut-être que, voilà, tu m'aurais interrogé il y a maintenant 13 ans. Voilà, je te dirais peut-être pas tout à fait pareil. Mais en tout cas, c'est vraiment des périodes où je garde pas du tout. Je garde un très bon souvenir. Je me souviens pas, tu vois, d'avoir morflé. Évidemment, j'ai certainement pleuré parfois parce qu'il me manquait, parce que, tu vois, un peu de fatigue. Et parce que, en plus, c'est toujours là où tes enfants tombent malades. Mais toujours, toujours. Ah oui. La varicelle, la gastro, ouais, la bronchio, ils en faisaient jamais, pas tous enfants malades, à chaque fois qu'ils partaient, bim, toujours. Je sais pas si mon homme a vécu peut-être une seule varicelle ou enfin, j'exagère, s'il entend ça il va crier, mais voilà, enfin, vraiment il y avait le truc, il tombait malade. Donc voilà, ça c'était des choses un peu plus difficiles à gérer, mais sinon ils étaient petits, donc en fait c'est assez cadré, hein, la vie d'une journée. Enfin voilà, attends, tu...
Oui, puis s'ils vont à la crèche, c'est quand même...
Ouais, j'avais la crèche, alors pas tous les jours, hein, parce que comme j'étais quand même à la maison, tu vois, je les mettais pas tous les jours, mais ce qui fait qu'il y avait un bon équilibre dans la semaine.
Donc deux garçons, et puis tu retombes enceinte, donc une troisième fois. Voilà. Cette fois-ci, c'était un projet ou une autre surprise?
C'était pas la surprise, là. Là, c'était un projet, on s'était dit, il y avait... L'Anso devait avoir 2 ans. Tu vois, donc on s'est dit 3 ans, ça sera cool. Et puis voilà, c'est venu assez vite aussi, donc trop chouette. On était hyper contents. Donc après 2 garçons, on s'est dit bah sympa, pourquoi pas une petite fille. Donc on se risque à la première échographie, on demande, vous pouvez voir un peu et tout. Et le gars dit, ah ouais, bah non, mais je crois que c'est une fille. Hein. Donc là, explosion de joie, trop chouette et tout, super. Et puis, mon homme part en mer.
T'étais à combien de mois de grossesse?
J'étais à 4 mois et demi.
Ah oui, donc potentiellement, il pouvait rater l'accouchement?
Non. On avait ce confort d'avoir des dates à peu près de départ et de retour.
D'accord.
C'était bien calé. Donc non, là, on savait que ça passerait. Par contre, pas là pour la deuxième écho. Et là, c'était pas le même gynéco, et il regarde et tout, et voilà, il me dit, oh, bah dis-donc, mais je crois que vous avez un troisième petit garçon qui va arriver. Je dis, quoi? Il me dit, bah oui, un garçon, parce que, en fait, c'était pas le même gynéco qui avait fait. Et j'ai dit, bah non, on m'avait dit une fille. Donc là, il m'a vu la mine décomposée, et là, je me souviens, il me dit, mais vous n'aviez pas déjà acheté de la layette? Je dis, bah si, évidemment, c'était ma première fille, donc voilà, si, j'avais acheté de la layette déjà, donc voilà, un petit peu dur sur le coup, ça n'a pas été facile, hein. Et voilà,
je suis rentrée, pour toi encore,
voilà, je ne pouvais pas le partager, donc voilà, je suis rentrée, j'ai pleuré, le temps de digérer, et alors quand je te dis qu'on ne pouvait pas du tout communiquer, moi je pouvais quand même lui écrire 40 mots par semaine.
D'accord.
Donc... alors lu, relu, il faut que ce soit, voilà, on ne peut donner que les bonnes nouvelles, donc c'est particulier, mais bon, j'avais toujours ça, donc j'ai réussi à lui annoncer voilà, la nouvelle, parce qu'il allait quand même pas rentrer tout de suite, donc voilà, j'ai réussi à lui dire, je me suis dit, j'espère qu'il va comprendre. Il a pas compris tout de suite.
Non,
pas du tout, mais je voulais pas mettre c'est un garçon, je voulais qu'il se soit un peu plus subtil.
D'accord.
Et puis l'emmener à deviner le truc. Donc voilà, en fait, tout bêtement, je lui avais cité les noms de famille de nos amis qui n'avaient que des filles, et j'avais mis les familles un tel vont être heureuses de la naissance de notre troisième. Voilà, et donc il a dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Puis en fait, il a creusé, tiens, en mode énigme, il s'est dit, ah ouais, ok, en fait, c'est un garçon. Donc bah, ça, je l'ai su que quand il est revenu, évidemment. Donc voilà, petit garçon, donc finalement moi voilà, j'ai eu 48 heures un peu dures, et puis en fait évidemment on était ravis, et enfin, si je peux juste dire quelque chose sur ce sujet, ça date du coup de il y a moins longtemps, enfin mon troisième avait grandi, mais moi c'est quelque chose que j'aurais peut-être aimé entendre plus tôt, donc voilà, j'aime bien le dire maintenant, c'est que en fait c'est en parlant avec d'autres couples, je racontais un peu l'histoire, et il y a une maman qui m'a dit, tu devrais lui dire en fait à ton garçon, ce qui s'est passé, ce que t'as ressenti à ce moment-là et tout ça. Et c'est vrai que moi, j'étais assez ouverte à ça. Donc, je me suis dit, ouais, elle a raison. Et on était vraiment dans un cadre qui était hyper propice. Enfin, voilà, c'était une semaine assez particulière. Donc, je me suis dit, bah, super. Donc, À l'époque, du coup, Léopold, il avait 9 ans, il avait 6 ans. Mmh. 6 ans. Et donc, je l'ai pris à part et je lui ai dit, voilà, ce que je vous ai raconté là, enfin, en détail. Et c'est vraiment drôle parce qu'il l'a vraiment accueilli comme si c'est quelque chose qu'il savait.
Ouais.
C'est, ça a été un moment ressenti. Très... Ouais, ça a été vraiment un moment dingue. Et comme si ça... Quelque part, ça l'apaisait un peu, que je lui dise, et que voilà, et je lui ai dit, en fait, voilà, je suis très heureuse évidemment d'avoir eu un garçon, je t'aime très fort, et voilà. Mais il l'a vraiment reçu, pas du tout étonné, bah bon, enfin, peu importe, je sais pas pourquoi tu me dis ça. Enfin, tu vois. Non, non, pas du tout, vraiment. Et c'est, voilà, maintenant j'ai à cœur de le raconter parce que je pense que voilà, et, de toute façon, ton podcast est bien placé pour que. Enfin, c'est quelque chose qui se dit, que l'enfant ressent tout ce qui se passe pendant la grossesse. Mais on ne pense pas forcément sur des détails, entre guillemets, à leur raconter ça après. Et puis parce qu'on n'en est pas forcément très fiers aussi d'avoir, enfin aujourd'hui, d'avoir pleuré 48 heures parce que c'était un garçon. Enfin, je me dis, c'était franchement... Mais c'est pas grave, je l'ai ressenti, c'était comme ça.
Ouais.
Mais voilà, c'était finalement de lui avoir dit... même moi, ça m'a enlevé...
Ouais,
ça m'a enlevé... un poids en fait, donc voilà, c'est la petite anecdote
partagée. Et alors, comment tu vivais ces grossesses loin de ton chéri?
J'ai eu des grossesses simples déjà, donc oui. Ça aidait énormément. J'essayais de pas focaliser trop sur la grossesse. En même temps, enfin tu vois, j'avais toujours des pour la troisième, j'avais deux petits derrière, et puis pour cette troisième grossesse, il est quasiment pas parti. Ça a été très court, en fait. Une mission très courte. Donc, voilà, il a été beaucoup plus présent. Ce qui fait que ça a quand même bien simplifié les choses. Et puis encore une fois, c'était des grossesses simples. Donc, voilà, qu'il soit là. Évidemment, c'est bien plus agréable quand il est là et tout ça. Mais voilà, c'était pas vraiment une difficulté supplémentaire. Il était toujours là en fin de grossesse. Quand ça devient un peu plus, tu vois, un peu plus compliqué, il était là.
D'accord.
Donc, ce qui fait que voilà, ça n'a pas été une difficulté.
Donc là, bah, te voilà avec trois enfants. Le quotidien se corse un petit peu, j'imagine.
Pas tant que ça. Oui, pas tant que ça.
Non,
on a eu des enfants qu'on... Enfin, tu sais qu'on fait leur nuit comme il faut, tôt. Voilà, en fait, on ne les a même pas laissés. Enfin, on leur a jamais laissé le choix de ne pas faire leur nuit. Donc, moi, c'était... J'avais mis 2 mois, un enfant fait ses nuits. À 2 mois, voilà, j'avais dit, tu feras tes nuits, basta. Donc, voilà.
C'était une recette que tu veux partager.
Là, pour le coup, c'était vraiment... à partir de 2 mois, je me disais, tu as eu tout ce qu'il fallait, tu vas bien, tu as eu à manger, c'est l'heure de dormir. Maintenant, si tu veux pleurer, tu pleures, mais c'est la nuit, donc je reviendrai que demain matin.
D'accord.
Voilà.
Okay.
En fait, moi, c'était toujours de beaucoup leur expliquer, leur parler, et voilà, c'était ça. Et puis, encore, ils étaient en bonne santé aussi, donc c'est toujours facile de dire ça quand tu as eu des enfants qui marchent bien. Après, évidemment qu'il y a eu des réveils la nuit. Ils ont eu toutes les petites maladies, et forcément, tu vois, j'ai pas eu des nuits complètes tout le temps. Mais à partir de 2 mois, 2 mois et demi, c'était terminé, on se levait plus la nuit, toutes les nuits. Donc ça, ça te... quand même, ça te facilite bien le quotidien.
Non,
c'est, ouais, c'est quand même pas mal, clairement. Donc, ce qui fait que la vie avec 3 enfants, c'était, enfin, super souvenir, quoi.
Mmh.
Vraiment, en plus, 3 garçons, donc il y avait l'idée de fratrie. Il commence à s'occuper les uns les autres. Enfin, ça, le troisième, finalement, tu le poses dans sa chaise à regarder les autres. Voilà,
oui.
T'as plus besoin de ta côté comme t'étais là pour le premier. Bah non, tu vas regarder ses frères et voilà, le spectacle est là, ça lui suffit largement. Et on dit souvent que les troisièmes sont cool d'ailleurs, du fait d'avoir leurs 2 aînés. Je sais pas, on dit parfois qu'ils sentent qu'il faut se faire un peu plus discret pour. Voilà, et ben nous, notre troisième était très cool. Et voilà, ce qui fait que ça a bien aidé. Pour,
D'accord.
Ouais.
Et donc. Petit quatrième.
Voilà, petite surprise.
Hein. Alors,
on revient sur une surprise. Oui, j'avais pas... on en voulait 4 au départ, mais là vraiment pas si tôt. Et en fait, le matin, donc c'était décembre, et il était en février, je monte sur ma balance. Je venais de retrouver mon poids d'avant-grossesse. Donc super, trop contente. Et puis quand même, mal au cœur et tout. Bon, il y avait des gastro qui tournaient. Donc je me disais, ça doit être ça. Et puis je me souviens, je le disais à la nana de la crèche et tout. Puis au bout de 10 jours, elle me dit quand même, votre gastro, ça commence à être un peu long, quoi. Moi, je dis, vous croyez? Je dis, non, 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 enfin... Bon, mon mari me dit quand même, on va faire un petit test, ma chérie. Hein, ça devient louche. Surtout que t'as pas trop de... À part la nausée, t'as pas d'autres symptômes. Donc, et là, voilà, test, bim, bam, boum, enceinte. Donc j'ai hâte de pleurer. J'ai dit, mais c'est pas vrai. C'est un petit peu tôt quand même. Et voilà.
Là, le troisième, il avait quel âge?
Eh ben, c'était décembre, hein, donc il avait 9 mois.
Ouais.
Donc, un mois, hein. Okay. Un petit quand même. Mm. Mais bon, ben voilà. Hein, bébé, t'es là, donc super. Passé le la nouvelle, lui, enfin, mon homme, il a été content tout de suite. Et puis j'ai appelé ma maman pour lui dire. En larmes, elle m'a dit mais non, mais attends, mais réjouis-toi, c'est top, super, vous en voulez quatre, enfin franchement voilà. Et puis bah, du fait tu vois, d'avoir entendu ça, je me suis dit bah oui, bon bah allez, allons-y, oui. C'est super, voilà. Et donc là, bonne nausée quand même pour cette grossesse jusqu'au bout, donc voilà.
Ah oui, t'as été plus malade que les autres.
Oui, clairement, mais peut-être parce que c'était une fille justement. Donc là, pour le coup, on n'a rien demandé à la première écho.
Ah oui.
Ah bah non. Ah non.
Ah oui, tu voulais plus qu'il se trompe, évidemment.
Ah non, une fois mais pas deux. Et deuxième écho, donc là, il dit ah, c'est une petite cocotte. Et alors moi, bêtement, je me suis dit, tu vois, il voit un petit pénis, il appelle ça une cocotte. Tellement je ne pouvais... C'était stupide, enfin, rien à voir. Tellement je ne pouvais pas croire que ce soit possible d'avoir une fille. Et donc, je regarde, tu vois, mon homme, et il me dit, bah super. Je dis, mais c'est quoi, du coup, une fille, un garçon? Bah, il me dit, bah, une cocotte, c'est une fille. Et donc là, trop bien, trop bien. Mais... En même temps, on avait du mal à y croire et on est allé se faire un resto en sortant. Et moi, j'avais qu'une envie, c'était d'appeler mes potes pour leur dire, tu vois, c'est une fille, c'est une fille. Et lui, enfin, tu vois, m'a dit, non, non, mais attends, on va pas s'emballer trop vite. En fait, on avait, enfin, tu vois, pour le coup, lui, il mettait un frein, il avait du mal à l'intérioriser encore et il avait un peu peur de le dire, de peur que ce soit pas ça, quoi. Bon, alors, voilà, après, on a fait le trajet en voiture, on avait une heure de voiture, j'ai dit, attends, stop, moi, j'arrive, c'est bon, j'arrive à la sortie de l'école, je le dis à tout le monde, j'ai rien à faire, là. Je crois que le gynéco, il a été clair, regarde, ça se voit, donc c'est bon. Donc, voilà, à partir de là... C'était passé, mais il y a eu ce petit moment, en fait, où c'est...
Le voilà. Mini-traumatisme de la troisième grossesse.
Ben ouais, c'est ça. Et puis, quand même, c'est cool d'avoir, toi, après trois garçons, cette joie d'avoir une fille, quand même. Ouais, hein.
Bien sûr.
Et voilà, et pour être bien sûr... mais voilà, du coup, c'était une grossesse bah, sympa aussi, parce que, voilà, t'as...
Ouais, c'était malade, mais la nouvelle était...
Mais la nouvelle, ouais, je me disais, je sais pourquoi j'ai mes nausées, donc c'était chouette. Hein.
Ouais. Et ton chéri, il était là pendant toute la grossesse?
Ouais, c'est il a dû partir, tu vois, par mais vraiment à la semaine.
Donc, d'accord.
Du coup, ça se faisait ouais, ça se faisait bien.
Donc ma famille complète là, maman de 4 enfants, toujours un quotidien que tu gères d'une main de maître.
Bah d'une main de maître, je veux pas donner cette image, mais en même temps, j'aime bien aussi dire que ça se fait quoi, de pouvoir bosser, d'avoir 4 enfants et puis voilà, d'être bien dans sa vie, c'est possible.
Mm-hmm.
Je pense qu'on s'est On n'a jamais voulu rentrer dans un engrenage où on se prenait la tête sur les enfants. On les a toujours emmenés partout. On ne s'est jamais mis de barrière. Quand on voulait partir tous les deux, on les laissait très facilement. Voilà, en fait, on s'est, de nous-mêmes, je pense qu'on s'est allégé un peu notre vie. Et voilà, c'est ce qui fait que ça roulait plutôt... Ouais, ça roulait bien.
Oui. Mmh. Et vous avez pas mal déménagé, du coup, du fait des missions ou pas?
Alors, oui, on a déménagé. On est resté pas mal de temps en Bretagne posé. Et puis après, on est parti sur Cherbourg, juste 2 ans.
Mmh.
Et on est parti sur Tahiti. Donc là, gros changement.
Oui, oui.
Ouais, ouais. Mais c'était demandé, c'était quelque chose qu'on avait demandé. Donc on était ravis. Puis pour le coup, les enfants étaient plus grands. Donc voilà, ça se faisait... Enfin, on pensait que ça se ferait très facilement.
Oui.
Finalement, ça n'a pas été si simple pour eux de se faire leur place là-bas à l'école. On repartait vraiment de zéro, tout le monde, hein, parce que nous, on connaissait personne là-bas.
Mmh.
Et puis, ben, les enfants n'avaient pas du tout d'amis, et donc il fallait voilà, tout refaire. Avec des nouveaux repères, alors ça reste Tahiti, c'est français, mais N'empêche que ça reste une vie insulaire, que les enfants tahitiens, ils ont leur façon de vivre qui n'est pas forcément la même que la nôtre à tous les points de vue. Donc voilà, il fallait que nos enfants se réadaptent. On pensait que pour les deux plus jeunes, donc qui avaient 6 et 8 ans, ce serait vraiment facile. On sent que les plus petits, que les enfants s'adaptent bien. Et pour le coup, non. Ça a été... leurs écoles et leurs amis leur ont manqué. On a eu des pleurs le soir pendant bien... pas tous les soirs, hein, mais pendant 4-5 mois. Hein, des bons coups de cafard et tout ça. Et puis, c'est pas simple parce que tu peux pas leur dire « T'inquiète pas, on les revoit, on rentre pour les vacances à Noël ». On peut pas, parce qu'on savait très bien que pendant 2 ans, on ne rentrerait pas. Donc voilà, il faut faire avec. Et c'est très bon d'ailleurs, hein, pour l'école de la vie, et leur montrer qu'il faut s'adapter, qu'il faut aller de l'avant. Voilà, que c'est ce cadre vie qu'on leur offre aujourd'hui, ben, il faut faire avec ça. Parce que de toute façon, on ne va pas en changer. Donc voilà, c'est bon. Mais parfois quand même, voilà, les consoler quand ils ont le cafard comme ça, ça fait mal au cœur aussi, parce qu'on se dit qu'ils n'ont rien demandé, que c'est nous qui les avons déracinés. Et que voilà, donc c'est quand même pas toujours simple. Voilà, il y a un peu de culpabilité. Et puis ben, finalement, voilà, en les prenant bien par la main, en les aidant, évidemment, heureusement, ça finit par se faire. Ils se font leurs amis, voilà, ils s'acclimatent. Et après... Après, c'est parti. Mais le surf les a pas mal sauvés, tous.
Ah oui.
Ouais, d'avoir trouvé le surf, un peu l'activité là-bas, au top. Et ils ont accroché tous les quatre. Et voilà, ça les a bien aidés à s'intégrer. Ouais.
Et toi, du coup, pareil, il fallait que tu refasses aussi des connaissances
Ouais, je repartais aussi de zéro. Et puis, on peut pas
T'as quitté ton travail, du coup.
J'ai quitté mon travail, ouais. J'ai quitté mon travail. Et puis, j'avais déjà... En fait, je venais de lancer Save Love Date. Donc, ce qui fait que j'avais ça que je devais gérer de Tahiti. Donc, j'avais vraiment de quoi m'occuper. Ce qu'on ne peut pas se dire, c'est qu'on est quand même 12 heures de décalage horaire. Donc, tu ne peux pas appeler ta famille, tes amis comme ça, parce que ben, quand toi, tu es posé le soir à pouvoir appeler, c'est le matin, la journée commence. Donc, il ne faut pas trop se raccrocher à ça. Donc, il faut se dire, ben, voilà, il faut que je fasse mon cocon, mon cadre de vie ici. Alors, on avait pour objectif de se faire vraiment 2 ans focus famille, vivre des aventures en famille, passer plus de temps les uns avec les autres. On savait que du coup tu vois, mon homme allait moins partir en mission, des missions plus courtes, donc on s'était dit bah, voilà, on va en profiter, ça va être plus stable, on va en profiter pour faire un beau focus famille. Donc on s'est pas trop mis la pression pour se faire un entourage social, même si ça s'est fait, évidemment, parce qu'on ne peut pas vivre sans. Mais en fait, on ne s'est pas mis la pression. Donc ça, c'était bien. C'était bien. Et puis, effectivement, on est revenu de ces 2 ans en se disant que ben, ça avait été hyper intense pour notre vie de famille. Et en plus, quand tu pars comme ça en expat, il y a quelque part, il faut aussi être, en fait, être soudé pour bien le vivre. Faire en sorte que personne lâche et que d'être là les uns pour les autres. Parce que, bah, au départ, en tout cas, hein, pendant quelques temps, on n'a personne d'autre à qui se raccrocher. Donc voilà, il faut être solidaires les uns des autres. Et ça, c'était assez fort, du coup, à expérimenter, je trouve, au sein de la famille.
Et pendant les absences, donc, du coup, tu disais que tes enfants avaient grandi là, quand vous êtes allés à Tahiti, mais pendant justement toute leur enfance, les départs du papa, comment vous avez géré pour que... le lien se fasse assez rapidement quand ils se retrouvent, qu'il manque des étapes quand même de la vie des enfants. Comment vous avez géré ça?
Ouais, il manque des étapes, effectivement. Alors, déjà, pour qu'eux le vivent bien, il y avait toujours le petit tableau, en fait, qui était sur la porte, et en fait, ils cochaient, ou ils collaient un petit autocollant tous les jours, pour qu'ils se rendent compte, parce qu'ils n'ont pas la notion du temps, en fait, les enfants. Donc, voilà, là, en voyant le nombre de cases qui restaient, ça leur permettait de mieux visualiser.
Donc le retour.
Et le retour, ouais. La date du retour. Ben, on vit quand même... Alors, on vit l'absence, et ça, c'est important de ne pas faire qu'attendre le retour. Dire, voilà, on a 2 mois à se faire ensemble, et ben on va aller vivre pleinement. Ça va être une parenthèse dans toutes nos histoires. Il y aura plein de parenthèses comme ça, mais on va aller vivre à fond. On ne va pas juste attendre le retour de votre papa, en fait. Donc, il y avait... je faisais attention d'avoir un programme pour les week-ends, en tout cas. Qu'on reste pas seul les week-ends et qu'on bouge à droite, à gauche chez les amis, chez les grands-parents. Ça ne m'embêtait pas du tout de prendre ma voiture et de partir. Ou alors avec les autres familles dont les papas n'étaient pas là non plus, de se faire des choses ensemble. Et même, je vais dire, dont les papas n'étaient pas là, mais c'est pas vrai, parce que j'essayais de pas mal privilégier justement les autres hommes, pour qu'ils aient ce contact-là. Et puis en plus, c'est vrai que dans ces cas-là, il y a une super solidarité, et les papas sont d'autant plus attentifs, en fait, à tes enfants. Ils aient passé du temps avec eux et tout ça, pour qu'ils aient ce contact-là et ce réconfort, entre guillemets, paternel. Même si c'est pas le leur, ça joue quand même. Donc, je faisais en sorte que, pour que ça passe vite, en fait, à chaque fois que tu sais ce qui va se passer le week-end prochain, ça permet que ça passe un peu plus vite. Et puis les retours, il y avait ces, comme je disais tout à l'heure, ces 2-3 jours, papa hyper cool. Le héros.
Même en grandissant.
Ouais, vraiment. Vraiment. Leur essai, en fait, leur espace à eux. Je pense qu'on avait autant besoin que eux nous laissent notre espace de couple pour qu'on se retrouve. Moi, je sache leur laisser leur espace, leur père, père-enfant, en fait, sans être là. Je crois que ça, c'était vraiment important, puis on comprenait bien.
Mais du coup, est-ce qu'ils t'ont déjà fait des crises où ils ont demandé leur papa pendant les absences
Oui, évidemment. J'en ai eu des coups de cafard, des pleurs. Et ça, c'est pas facile. Tu vas aller coucher le soir et puis évidemment, c'est là que le cafard arrive. Ouais. Donc juste toi, tu as eu ta journée entière, tu t'es occupé d'eux, tu as tout donné. Et là, tu sais que tu vas aller te poser tranquille, dans un moment calme. Et là, non, il faut encore passer 5, 10 minutes, un quart d'heure à consoler. Et donc là, il fallait bien prendre sur soi, être zen pour avoir les bons mots, consoler, sortir la photo. Alors, ils avaient toujours une photo de leur père accroché au lit, les foulards avec l'odeur, des choses comme ça. Mais évidemment, il faut prendre ce temps pour consoler, pour rassurer, parce que c'est pareil, si moi j'avais cette absence, ce sentiment de mort, alors eux ne pouvaient pas du tout mettre évidemment ces mots-là, puisque c'est quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, la mort. Ce concept-là, ils ne le connaissent pas, ils ne l'ont pas vécu, donc ils ne peuvent pas mettre ces mots-là. Mais si toi tu le ressens en tant qu'épouse, tu te doutes bien que eux, avec leur papa, c'est la même chose. Au bout d'un moment, ils ne savent plus. Donc, ce qui aidait bien, c'était de regarder les films, les petites vidéos que tu fais. Ça aide bien. Et puis lui en avait enregistré en avance, donc de temps en temps je leur montrais, je leur faisais écouter. Évidemment, les coups de cafard, c'était... Et puis c'est sain, presque, en fait. Je préférais qu'ils en aient, même si c'était jamais au bon moment. Mais valait mieux, ça veut dire qu'ils y pensaient tout le temps, que ça leur manquait. C'est vrai que plus ça approchait, quand ils voyaient le retour arriver, il y avait plus l'excitation qui montait, il n'y avait plus le cafard, la joie du retour qui approchait. Ça, pour le coup, c'est des souvenirs incroyables qui te font oublier, en fait, toutes les mauvais moments que tu as vécu en l'absence. Ça te fait tout oublier, parce que les retrouvailles, c'est tellement un truc de dingue que c'est un peu comme l'accouchement qui te fait oublier les douleurs, les contractions, les nausées. C'est pareil, le retour ça te fait oublier les tracas de l'absence.
Après, l'avantage, si je ne me trompe pas, c'est que vous viviez avec d'autres personnes, du coup, c'est des sortes de communautés militaires qui...
Je ne sais pas si on peut dire communauté, mais effectivement, là où on habite, on côtoie plein de couples qui vivent la même chose. Ce qui fait que les mamans, entre nous, on est hyper solidaires. Vraiment, il y a une super solidarité qui se met en place, donc on fait des soirées entre nanas, on en fait hyper souvent. Si on sait justement qu'il y en a une qui est toute seule, même quand on va faire des dîners entre couples, on va l'inviter. On est vraiment présente. Les enfants malades, on se les prend. Moi, quand je devais aller bosser et partir, je bossais à Nantes, donc je partais assez loin, elle me gardait les enfants. Il y a vraiment une super solidarité qui aide énormément. Et plus t'es isolée dans ta ville, plus la solidarité est forte. D'accord. Clairement.
Mais du coup, tes enfants pouvaient voir aussi les autres enfants qui vivaient la même chose. Ils ne se sentaient pas si à part, finalement.
Eh bien non, pour eux, c'était dans leur quotidien. C'était normal, tu vois, le papa qui partait en mission. Donc, ils n'avaient pas du tout l'impression d'être à part. Et comme dans leurs cousins, y en a qui vivaient la même chose, c'était parfait. Ils sentaient pas une injustice ou j'ai pas de chance parce que mon papa est pas là, pas du tout.
Ouais.
Donc ça c'était bien.
Et ils comprennent le métier que fait leur papa.
T'en parlais, ouais. Oui. Bon, maintenant, évidemment, facilement. Même quand ils étaient plus petits, ils le comprenaient bien. On leur expliquait bien avant. Ils prenaient du temps avec ça. Il y a des livres qui sont faits dessus. Donc, même il y avait un côté un peu mystérieux et justement un côté un peu héros.
Et complètement. Les sous-marins.
Bien sûr.
Vous avez acheté des jouets.
Ouais. Évidemment, dans le bain.
Trop la classe.
Forcément. Oui. Évidemment, ça, c'était. Côté un peu mystérieux, tout ça, ça c'est sympa. Et puis ils pouvaient visiter quand même. Donc il y avait des visites d'organiser justement pour que les enfants puissent bien avoir conscience du cadre de vie.
D'accord.
De là où il y a leur père, il n'y a que des hommes. Donc c'est pas, je dis que les papas.
Oui.
Mais en grandissant après, ils pouvaient visualiser. Donc ça c'était important, c'était bien aussi.
Et alors le couple dans tout ça, comment sur toutes ces années vous avez fait pour maintenir votre relation de couple entre les enfants qui peuvent parfois faire un petit peu de dégâts sur les relations de couple et en plus les séparations dues au métier.
Alors on avait vraiment conscience du danger de la situation. Donc dès le départ on s'est dit ok, on va vraiment se donner les moyens que ça se passe bien. Donc comme je disais, on avait mis plein de choses en place pour garder le contact malgré ce vide. Et puis à chaque retour, on prenait vraiment le temps de partir tous les deux. Donc je vais dire 4, 5, 6 jours, c'était variable. Après son arrivée, on se prévoyait un week-end où on partait tous les deux. Donc ça, c'était pas toujours bien vu par l'entourage, pas toujours compris, parce qu'ils trouvaient ça dur qu'on laisse à nouveau les enfants. Mais en fait, nous on l'assumait très bien. Et puis les enfants, en fait, pour eux, c'était super sécurisant de voir que leurs parents, ils étaient amoureux. Donc, effectivement, toi, il peut y avoir un peu de pleurs au moment du départ, quand tu les déposes à droite à gauche. Enfin, ça dure 5 minutes. Après, ils oublient. Et puis, je trouve qu'ils sont vraiment sécurisés. C'est un confort pour eux de se dire, mes parents, Issam, ils sont partis en amoureux. Donc, même si mon papa part encore, bon, ma maman, je l'ai assez vue, donc ça, c'est pas un problème. Ça, je le vis bien. C'était plus mon papa, mais c'est vraiment quelque chose qu'on s'est appliqué à faire à chaque fois. Et même entre... on est toujours partis régulièrement, tous les deux.
Ouais.
Ouais, toujours. Et en fait, je crois que plus tu le fais, plus tu as envie de le faire. Parce que tu en vois les bienfaits.
Oui.
Tu vois ce que ça produit en toi, dans ton couple. Et c'est une règle de vie qu'on s'est donnée, dès le départ. De se dire, on partira souvent, tous les deux. Alors... encore une fois, on a eu la chance d'avoir les grands-parents, les oncles, les tantes, les parrains, les marraines, les amis. Mais nous, on a toujours... on n'a jamais hésité, en fait, à demander, à laisser nos enfants, souvent les séparer, pour que ce soit plus simple. Mais c'est quelque chose... et on disait, quand vous voulez partir, ces enfants, c'est nous, vos enfants, sans problème. On n'a pas souvent eu ceux des autres, mais... mais bon, parce que finalement, ils ont du mal à le faire, on s'en rend compte, hein. Les gens ont du mal à... Ils ont l'impression un peu d'être égoïstes en faisant ça. Mais moi, je dis non, surtout pas. Au contraire, je pense que ça nourrit ton couple. Et si ça nourrit ton couple, ça nourrit ta famille, ça nourrit tes enfants. Donc c'est très sain, je trouve, de faire ça. Et puis, on avait monté un petit groupe. Et ça, je trouve que c'est une bonne idée à donner. Quand on n'a pas forcément les grands-parents qui sont tout prêts ou qui peuvent le faire, qui sont dispo. Il suffit de se mettre à trois familles et puis se dire on se donne au moins un week-end chacun dans l'année et en fait on tourne et à ces trois familles là pour se laisser les enfants.
D'accord.
Et ça je trouve que c'est un système qui marche bien. Voilà, tu sais que tu vas sacrifier ou offrir, on va dire plutôt, un ou deux week-ends dans ton année pour garder les enfants des autres, mais du coup toi tu auras le tien, en perspective. Je trouve que quand on m'oppose le fait nous on peut pas partir parce qu'on a personne pour les enfants, je dis, s'il y a toujours des petites astuces qu'on peut trouver. Donc je donne cette idée-là.
Et le fait de ne pas communiquer, du coup, pendant toutes ces semaines, est-ce que vous surcommuniquez quand vous vous retrouvez ou comment ça se passe?
Alors, quand même. Il y a toujours au moins une grosse soirée de débrief et qui partent, alors là, qui partent 2 mois ou qui partent 4 jours. Hein. Il y a toujours cette soirée des retrouvailles où on sait que ça va être trop bien. Hein. Donc, en semaine ou en week-end, on sort toujours la bouteille, le truc hyper love, et on sait qu'on va débriefer de tout ce qui s'est passé. 4 jours, ça peut paraître hyper court, mais en fait, sur 4 jours, si tu veux raconter, t'as plein de choses à raconter. Quoi. Surtout que lui, sympa, enfin, en mission... C'est toujours... moi, ça peut être parfois un peu plus plan-plan, avec voilà, la vie des enfants, le truc et tout ça, mais c'est pas grave, je trouve toujours à dire. Et ça, super, enfin voilà, on a toujours sacralisé ces soirées de retrouvailles et qui font que tu y penses au moment du départ et tu te dis, allez, il part, c'est pas cool, mais c'est pas grave, il va y avoir les retrouvailles. Mmh. Donc voilà, tu penses à ça, en fait, direct. Tu te projettes là-dedans et tu te dis, ça te tient, en fait. Et donc, surcommuniquer, bah... Je sais pas si on peut dire... Est-ce qu'on peut surcommuniquer ? Je ne sais pas. Hein. Est-ce qu'on... Mais en tout cas, prendre soin de bien parler et de prendre du temps à deux, toujours, toujours, toujours.
Et alors tout ça, toi, ça t'a donné une idée, justement. Tu parlais de la création de ton entreprise Save Your Love Date. Ça t'a donné envie de justement réaliser des carnets pour les couples ?
Ouais, en fait, je pense que le fait qu'on prenne autant soin de notre couple, dans notre entourage, en tout cas, ça, c'était un peu le sujet qu'on abordait tout le temps. Et on m'a dit plusieurs fois, tu devrais écrire un bouquin pour les couples et tout ça. Et moi, je voyais pas trop comment m'y prendre. Et puis, je trouvais qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui existaient là-dessus. Et en fait, il y a 3 ans, j'ai eu une sorte de révélation et j'ai eu l'idée, je me suis dit... En fait, je ne vais pas écrire un bouquin, je vais faire un carnet de com pour les couples où le couple, il sera vraiment acteur. Donc, ce n'est pas l'un qui lira le bouquin, qui donnera des idées à l'autre et finalement, ils ne mettront jamais ça en place. Là, il y aura vraiment un travail de fond et je voulais, en fait, que ce que j'appelle cette aventure un peu, qui ait vraiment un impact sur le couple et les boosts. Alors, si tu es un couple qui va déjà bien, l'idée, c'était... tu vois qu'en vivant cette aventure, bah, ils aillent encore mieux et qu'ils posent des bases solides pour aller encore plus loin. Et puis, pour les couples qui se sentent un peu déconnectés, un peu en perte de vitesse, où la routine s'est installée, ça devient un peu plan-plan, et bah, ça les rebooste. Ça, voilà, ça leur redonne vraiment une énergie, une nouvelle impulsion pour repartir. Mais du coup, ouais, c'est venu de là, de tout ce soin qu'on avait apporté, toutes ces petites astuces qu'on avait mises en place, toutes ces questions qu'on s'est posées régulièrement, et ben voilà, ça a donné voilà, vie au carnet Save Love Date et au concept, du coup, sous mode rendez-vous, le côté on se retrouve en tête à tête, un peu comme au premier rendez-vous, et on met les formes, et ça, tu vois, c'est ce que je racontais dans nos soirées de retrouvailles, et à chaque fois, c'était tellement. Enfin, hyper intense, et on entend tout le temps dire oui, enfin, après des années, c'est fini, la séduction, l'œil qui pétille et tout. Et moi, je dis tout le temps, c'est pas vrai, si vous l'entretenez, et ben ça peut rester, c'est une évidence. Mais le tout, c'est de l'entretenir. Donc, évidemment, si on fait ça une fois de temps en temps, bon, ben, ça peut faire un bide. Si on l'entretient finalement régulièrement, et puis en n'ayant pas peur de mettre les formes, même si parfois ça peut paraître too much, les bougies, la musique, mais en fait, c'est la base et ça fait tout, quoi. Oui. Donc, je pense qu'il faut pas du tout hésiter à en abuser, et moi je revendique le fait que ça peut rester voilà, nous ça fait 15 ans de mariage, et voilà, je le dis, c'est encore bien présent, donc on en reparle dans 10 ans, mais voilà, j'espère que je dirai la même chose. Donc il y avait ça aussi dans le concept SEALD, vraiment cette idée, premier rendez-vous et séduisez-vous, et voilà, comme si vous deviez reconquérir son cœur, et voilà. Il y a
Tu donnais des conseils, toi, justement aux autres femmes de militaires
Ben oui, je suis connue un peu pour être. J'aime bien le côté coaché un peu.
Coach donc, d'amour.
Ben ouais, c'est ça. Hein. Donc oui. Malgré moi, je pense que des fois sans trop le vouloir, mais ouais, et puis j'aimais bien les booster, leur donner des idées pour mettre des choses en place et tout. Moi, je voulais que ça marchait en fait dans mon couple. Donc voilà, j'avais trop envie que ça fasse le même effet chez elles. Donc ouais, c'est vraiment. Et ça l'est encore hein, d'ailleurs, c'est un peu mon dada quoi. Clairement.
On te demande des conseils sur Instagram
Oui. Maintenant que, voilà, que je suis un peu plus... Ça commence à être connu, je suis plus installée. De plus en plus de retours de ceux qui ont vécu l'aventure ou qui sont en train de la vivre. Ça me donne une légitimité. Et en fait, je pense que je suis accessible. J'espère bien le rester, d'ailleurs. Donc, ça leur fait pas peur de venir vers moi, me poser des questions. Et parce que je suis pas non plus une professionnelle du couple, tu vois. Je suis pas conseillère conjugale, je suis pas thérapeute. Donc, j'ai pas ce côté professionnel qui fait que certainement je parais plus accessible. Et tant mieux. Donc, et je fais maintenant des... Tu vois, j'ai mis en place des Insta Live, mais j'aime bien que, en fait, qu'elles me demandent, qu'elles apparaissent sur le... En fait, sur l'écran, vraiment, qu'on discute, qu'on ait une conversation. Et ça, ça marche de plus en plus. Donc, c'est chouette parce que c'est vraiment ce que je veux créer, parce que c'est super Insta, tu vois. Mais quand ça reste trop virtuel, moi, j'aime bien maintenant pouvoir rencontrer. Mmh. C'est ce que j'essaye de développer.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité ?
Oh ben je pense que ça m'a... Moi, j'ai toujours rêvé d'être maman. Ça a toujours été... Je voulais une famille. Je voulais 8, 10 enfants hein, quand j'étais plus jeune. Ah oui, ouais. Donc, je m'épanouis vraiment dans cette place de maternité. Mais j'ai toujours en tête que je veux d'abord m'épanouir en tant qu'épouse pour être une meilleure maman après. Et puis, je pense que c'est un rôle qui évolue. Et tu vois, il y a un moment où j'avais trop la place autoritaire, trop la maman autoritaire, alors du fait des absences évidemment, parce qu'à un moment on n'a pas le choix, il faut avoir ce rôle-là, mais c'était comme les absences revenaient régulièrement, du coup j'étais étiquetée comme ça. Et ça, tu vois, on en a pas mal parlé avec mon homme et on l'a travaillé, tu vois, et ça a mis du temps hein, avant que tu vois la tendance s'inverse un peu, qu'il prenne ce côté plus autoritaire et moi que je sois plus douce et tout ça. Et voilà, donc c'est pour ça que je dis que c'est un rôle qui évolue, qui se travaille. Et maintenant, tu vois, je commence à avoir un adolescent, on passe encore à une autre phase et qui s'apprend. Pendant longtemps, j'ai pas voulu entendre parler, même mes copines qui me disaient, tu sais, il va devenir ado, même là, ça commence à sentir. Je dis non, pas du tout, c'est encore mon petit bébé, tout ça. Mais non, et en fait, il faut l'accepter, il faut apprendre. J'hésite pas à lire des choses dessus, tu vois, pour savoir comment bien s'y prendre pouvoir s'adapter à ton enfant qui grandit pour être. Pour réussir à donner le change, à être bien à l'écoute et essayer d'être des bons parents. On ne sera jamais pour eux.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman toulonnaise ?
Oh, maman toulonnaise, je dirais maman cool. La vie cool, c'est bord de mer, soleil, les gens sont très sympas. La vie est facile parce que Toulon, ça reste quand même une ville vraiment à taille humaine. Donc, je dirais, maman cool.
Quel est ton endroit kids friendly préféré ?
Alors là-bas, du coup, tous les restos et les bars de plage. Parce que tu peux t'asseoir tranquille, à siroter ton petit mojito pendant que tes enfants sont sur la plage. Donc, c'est parfait.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille ?
Rien que pour moi, je dirais qu'aujourd'hui, je m'éclate dans le fait de développer Save Your Love Date. Donc là, par exemple, de venir passer 4 jours à Paris, même si c'est dans le cadre de mon boulot, mais que je considère finalement pas trop comme un travail, c'est vraiment du temps pour toi, ou pour moi, pardon. Donc je m'éclate. Et puis, en famille, c'est retour en France. Donc c'est vraiment dans l'idée, et pour le coup, ça va bien avec la période actuelle, de redécouvrir la France et de profiter déjà toute la côte d'Azur. On a tout ça à découvrir. On a acheté un van, donc on se met en mode family van, ça va partir en nature et vivre nos vacances dans la nature.
Merci beaucoup Swazik.
Merci à toi, c'était un plaisir.
Un grand merci d'avoir écouté Le Tourbillon, et si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en mettant un avis et 5 étoiles sur votre application podcast préférée. Cela m'aidera beaucoup. Pour échanger sur le sujet abordé avec Swazik, retrouvez-nous sous la photo de l'épisode 71 sur Instagram. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.